midi ici à Paris, 13h à Beyrouth, 14h30 à Téhéran. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une de cette édition, des dépôts de carburant en feu plongent Téhéran dans la nuit en plein jour. 9e jour de la guerre israélo-américaine. Nouvelle frappe meurtrière au Liban également. Téhéran riposte toujours et désigne un nouveau guide suprême. Pendant ce temps, on vote en Colombie, élection législative dans un contexte tendu avec de forts soupçons de fraude. Explication dans ce journal. Et puis nous évoquerons la journée internationale des droits des femmes. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout dans le monde en ce 8 mars. Et ce n'est pas une surprise, la lutte contre les inégalités et les violences n'est pas gagnée. Jour 9 de la guerre lancée par les Américains et les Israéliens au Proche et Moyen-Orient. Les bombardements continuent en Iran et au Liban. En face, la République islamique ne rompt pas et assure être prête à au moins 6 mois de guerre intense contre les États-Unis et Israël. Ces ripostes continuent dans les pays du Golfe, notamment nouvelle salve de drones en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Au Koweït, des réservoirs de carburant de l'aéroport international ont été touché. Au Bahreïn, une station de dessalement d'eau a été endommagée. Pourtant, le président iranien Massoud Pezeshkian avait assuré qu'il n'y aurait plus d'attaque sur ses voisins. Des promesses reçues avec circonspection par les monarchies du Golfe, selon Akram Zawi, chercheur associé en géopolitique à ORF Middle East, un groupe de réflexion basé à Dubaï. Nous l'entendrons dans un instant. Voilà, nous l'avons retrouvé à Akram Zawi.
Au-delà de ces déclarations, il y a 2 points auxquels les pays du Golfe sont attentifs. D'abord, le niveau de contrôle politique actuel sur les gardiens de la Révolution. Donc, les gardiens de la Révolution sont-ils sous une autorité politique quelconque en Iran ? Ensuite, il y a la question du degré de l'escalade auquel l'Iran est disposé en fonction de l'évolution du conflit. Donc, l'Iran pourrait être tenté de maximiser les dommages causés par ses opérations, notamment contre les pays de son voisinage, pour donc inciter les États-Unis eux-mêmes à cesser leur opération. Pour autant, le dialogue n'est bien entendu pas rompu entre l'Iran et les pays du Golfe. Et en fait, je pense qu'il faut voir le discours de Pezeshkian comme s'inscrivant d'abord dans le souci de préserver les relations. L'objectif demeure que les monarchies du Golfe puissent jouer les intermédiaires, en tout cas puissent continuer de faire pression, de mener une campagne de mobilisation internationale en faveur d'un cessez-le-feu. Puis il y a un autre point, c'est que l'Iran ne voudrait pas voir les monarchies du Golfe rejoindre une coalition qui s'opposerait à lui. Donc c'est comme ça, je pense, qu'il faut aussi voir la déclaration du président iranien.
Akram Zawi, chercheur associé en géopolitique à ORF Middle East, un groupe de réflexion basé à Dubaï. Il était interrogé par notre envoyé spécial dans le Golfe, Guilhem Delteil. La campagne de représailles de Téhéran se poursuit aussi contre l'État hébreu. Les Israéliens sont descendus aux abris de nombreuses fois ces dernières heures. 4 vagues de missiles en l'espace de 5 heures sans faire de victimes. Hier, une manifestation pour la paix s'est tenue dans le centre de Tel Aviv, mais le rassemblement a tourné court. Reportage de notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
C'était seulement la 2e fois qu'ils se réunissaient pour dire non à la guerre, mais la grosse 50aine de manifestants de gauche ont à peine eu le temps de sortir leur banderole. 3 hommes, arborant des drapeaux israéliens et américains, sont venus perturber la manifestation. Objectif atteint, la police se déploie en masse pour disperser la foule. Cette manifestante n'en revient pas.
Les policiers sont censés protéger la sécurité publique, non ? Alors apparemment, la liberté d'expression, elle est contraire à la sécurité publique.
Le député communiste Ofer Kassif était là aussi pour dire non à la guerre. Pour lui, le pouvoir cherche clairement à faire taire toute voix dissidente.
Quelle liberté d'expression ? Je plaisante car la liberté d'expression n'existe pas vraiment en Israël, du moins pas sous ce gouvernement, et ça empire de jour en jour, c'est certain. On l'a bien vu ici.
La police a expliqué que la manifestation dépassait la jauge de 50 personnes fixée par les autorités et qu'elle provoquait des troubles à l'ordre public. Julien Chavanne, Tel Aviv, RFI.
Pendant ce temps, l'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes ce matin en Iran visant des sites de missiles et des centres de commandement iraniens sur tout le territoire. Et et Téhéran brûle, d'immenses panaches de fumée noire sont visibles dans plusieurs endroits de la capitale iranienne. 4 dépôts pétroliers ont été frappés la nuit dernière. Conséquence directe, la distribution de carburant est désormais interrompue à Téhéran. Pour autant, la République islamique ne rompt pas et a désigné le successeur d'Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes américano-israéliennes, un nouveau guide suprême numéro 1 du régime dont le nom n'a pas été dévoilé, mais selon plusieurs sources, il s'agirait de son propre fils, Mojtaba Khamenei. Israël a d'ores et déjà annoncé ces derniers jours que le nouveau guide suprême serait une cible. Israël mène toujours la guerre sur deux fronts, en Iran donc et au Liban, pour frapper les cibles du Hezbollah, allié du régime de Téhéran. Les bombardements ont repris ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite pro-iranien. Une de ces frappes a atteint un hôtel du front de mer en plein centre de Beyrouth, faisant au moins 4 morts et 10 blessés. À noter enfin que le président Emmanuel Macron se rendra demain à Chypre pour témoigner de la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne frappé la semaine dernière par des drones et des missiles iraniens. Dans le reste de l'actualité, avant la présidentielle dans 3 mois, les Colombiens votent aujourd'hui pour des législatives dans un contexte tendu. Le président de gauche, Gustavo Petro, qui ne peut pas se représenter, a fustigé l'immobilisme et la corruption du Congrès. Les parlementaires ont rejeté ces propositions comme la modification du système de santé ou une réforme fiscale visant à augmenter les impôts des plus riches. Aujourd'hui, Gustavo Petro redoute des fraudes électorales en cause. Le logiciel de décompte des voix qui n'avait pas bien fonctionné lors d'élections précédentes en 2022. Des craintes partagées par son camp. Maria José Pizarro est sénatrice.
Malheureusement, la décision du Conseil d'État qui établit que les autorités électorales doivent acheter un logiciel public n'a pas été respectée. Et le contrat avec l'entreprise, dont le logiciel a été défaillant lors des élections de 2014, 2018 et 2022, a été renouvelé. Les autorités électorales assurent avoir effectué un audit du logiciel. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Le code source du logiciel n'a pas été vérifié. On pourrait donc revivre ce que nous avons connu en 2022. C'est pour cela que nous avons mis sur pied une stratégie d'observateurs électoraux. Nous en avons environ 45 000, mais nous avons besoin de 90 000 personnes pour être présents dans tous les bureaux de vote. Nous avons également environ 500 avocats prêts à intervenir pour examiner les résultats dans les bureaux de vote où des problèmes auront été signalés.
La révision de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales.
Maria José Pizarro, interrogée par Angélica Pérez de la rédaction en espagnol de RFI. Beaucoup de manifestations sont prévues dans de nombreuses villes du monde à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Des mobilisations importantes sont attendues à Paris, Madrid, Mexico City ou Istanbul. Les manifestants dénoncent notamment les violences faites aux femmes et les inégalités persistantes. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle à redoubler d'efforts. Laura Martel.
Le constat est sans appel. Aucun pays dans le monde n'est parvenu à instaurer la pleine égalité devant la loi. À l'échelle mondiale, les femmes ne bénéficient que de 64% des droits juridiques dont jouissent les hommes, alerte l'ONU. Une discrimination qui peut toucher presque tous les aspects de la vie. Dans certains pays, les femmes ne peuvent toujours pas posséder de biens, demander le divorce ou accepter un emploi sans l'autorisation de leur mari, par exemple. Par ailleurs, dans 54% des pays, le viol n'est toujours pas défini sur la base du consentement, ce qui signifie qu'une femme peut être violée sans que la loi y reconnaisse un crime, déplore l'ONU, qui souligne aussi que le mariage des filles sous la contrainte est toujours légal dans près de 3 pays sur 4. Sur le plan économique, ce sont 45% des États qui ne disposent d'aucune loi pour garantir l'égalité de rémunération à travail égal. Et même lorsque des lois existent pour protéger les femmes, leur application reste souvent insuffisante. Dans 70% des pays étudiés, les femmes rencontrent plus d'obstacles que les hommes pour accéder à la justice, notamment faute de moyens financiers ou à cause de discriminations persistantes dans l'appareil police-justice. Si des progrès sont bien en cours, au rythme actuel, il faudra 286 ans pour combler les disparités en termes de protection juridique, s'alarme l'ONU.
Voilà, c'est la fin de ce journal et on le referme avec Laura Martel. Restez à l'écoute de RFI.
Elle tremble un peu d'avoir tant fait, d'avoir tant salué le monde. Moucher des mers, de gouttes au nez, compter sur leurs doigts les secondes. Quand petite fille, elle se glissait dans d'autres comme elle qui nous rassurent qu'elle commençait à forger une poigne pour bâtir un futur. Les mains de mes grands-mères. Elles sont expertes en la manière de savoir se tendre à qui veut. Elles ont appris pendant la guerre à essuyer les larmes aux cieux. Elles résistaient dans la caresse quand elles se tuaient au labeur. Ces heures où elles n'ont eu de cesse de les avoir sur le cœur. Les mains de mes grands-mères. Elles ont touché des sols lointains, dessiné des cœurs dans la buée. Elles ont su serrer le poing, et quand il fallait le lever. Elles ont fabriqué des foyers, qui ont fait naître des lendemains. À coups d'amour ravitaillés, et de courage à demain, celles de mes grands-mères. Elles se sont brunies au soleil, elles ont écrit dans toutes les langues. Elles veillent sur mon sommeil, les soirs où y a mon monde qui tangue. À force d'être sûre et rassurante, de savoir comment se glisser. Au creux des trintamantes, on a fini par leur demander leurs mains à mes grands-mères. À mes grands-mères. Elles les ont vertes, elles les ont libres sur nos têtes blondes ébouriffées. Elles nous maintiennent en équilibre du bout de leurs doigts de fée. Alors c'est vrai. Alors c'est vrai. Qu'elles tremblent un peu. Ces gardiennes chaleureuses. Leur ligne de vie dans les creux, celle qui dessine les mains heureuses.
Mirage à travers le vent. l'écoute de...
Principe Actif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
baby, going to the mattress is a cannibal about it. Devouring you average motherfuckers like a panther does a rabbit, does a cabbage. I'm a beast, a mammoth, I'm a freak, a savage, I'm an abnormality. Ain't no matter doubt it, I'm a Venus rap stallion, beating your battalion with ease like a mallet. Leave you flatter than a blanket, trackers humming like a camel in the saddle, like Aladdin, magic clamping in my mansion. Scratch that, that ain't that camera, I'm lamping in my heat. Labyrinth palace on Saturn in the clouds, living lavish, getting pepper, getting hammered in a beat. From a chariot, fashion from a Cadillac, 16 seats with wings, you hear them galloping.